Le journal Didier Duployer.
À moins d'un revirement de dernière minute, l'ancien Premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker devrait être désigné ce vendredi nouveau président de la Commission européenne par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union.
Oui, seul David Cameron, Premier ministre britannique, continue de s'opposer à cette élection. Pourquoi ce cavalier seul de la part de la Grande-Bretagne a-t-elle au fond encore sa place au sein de l'Union ? L'ancien député européen libéral-démocrate Graham Watson est l'invité du journal en direct de Bruxelles à 7h35.
Transformer l'actuel cesser le feu en Ukraine en une trêve durable. C'est sur cet objectif que se sont quittés hier soir à Vienne Vladimir Poutine et Didier Burkhalter.
Oui, ils se sont vus hier soir pour la troisième fois. Ce cessez-le-feu en Ukraine pourra-t-il donc se transformer en une véritable fin des hostilités? Nous entendrons l'espoir de Didier Burkhalter. Ce sera juste après ce journal.
Et une nouvelle équipe européenne éliminée. C'est au tour de l'Italie d'être sortie de la Coupe du Monde de football. Nous lirons la presse italienne du jour avec Patrick Chaboulet.
Oui, quant à Suisse-Honduras, ce soir 22h dans ce qu'on appelle l'enfer vert de Manaus, au fin fond de l'Amazonie, 35 degrés, des conditions climatiques assez particulières. Est-ce qu'elles peuvent, ces conditions, influencer le match? Quelles sont les chances des Suisses de poursuivre leur route dans cette Coupe du Monde? Nous retrouverons Joël Robert à Manaus, ce sera aux alentours de 7h20.
L'arrivée en Suisse de la Google Glass inquiète. Elle inquiète les préposés romans à la protection des données. Ils en appellent à réglementer leur usage.
Grand projet, les dépassements de coûts sont-ils inévitables? 120 millions au départ, 211 à l'arrivée pour le pont de la Poya à Fribourg. C'était débattu hier soir d'ailleurs au Grand Conseil. Y a-t-il trop d'amateurisme dans la gestion des grands projets en Suisse? C'est le thème dans Ligne Directe à 8h. Vos remarques et vos questions sur les réseaux sociaux ou via l'application mobile en Ligne Directe.
Qui sera donc le prochain président de la Commission européenne? Réponse après-demain, vendredi. Ce jour-là, les chefs d'État et le gouvernement de l'Union se retrouvent donc à Bruxelles pour en décider. Alors, selon le scénario privilégié, c'est donc Jean-Claude Juncker qui devrait être nommé. L'ancien Premier ministre luxembourgeois a le soutien d'une grande majorité de ses dirigeants. En fait, un seul chef de gouvernement fait de la résistance, on l'a dit, c'est David Cameron. Alain Franco, vous êtes en direct avec nous de Bruxelles. Il semble que David Cameron, le Premier ministre britannique, soit prêt à mener le combat jusqu'au bout, même s'il sait qu'il a déjà sans doute perdu cette guerre des nominations.
Oui, seul contre tous, c'est la posture que David Cameron a décidé d'adopter en fin de semaine. Le dirigeant britannique rejette la candidature Juncker pour deux raisons. D'abord, parce qu'à ses yeux, l'ancien Premier ministre luxembourgeois est, dit-il, un homme du passé qui ne peut pas incarner le renouveau dont l'Europe a besoin. Juncker a gouverné le Luxembourg de 1995 à 2013. Surtout, Cameron ne veut pas que les dirigeants se fassent imposer un choix par le Parlement européen qui pousse jusqu'au bout la logique qui dit que les 28 prennent leurs décisions en tenant compte du résultat des élections et aussi de l'avis du Parlement. Juncker y est soutenu par une très large coalition de centre-gauche et c'est un fait, si son candidat l'emporte, le Parlement aura considérablement renforcé son poids en tant qu'institution européenne.
Mais David Cameron finalement se retrouve seul, tout seul, pour défendre son point de vue ?
Bah, écoutez, pas au début, hein. Merkel n'était pas très loin, mais elle a été contrainte par son parti et par son opinion publique de se rallier à Juncker, choisi par les conservateurs où siège sa CDU. Et les dirigeants socialistes réunis à Paris samedi par François Hollande ont entériné ce choix aussi, mais à condition que Juncker fasse une politique plus sociale et qu'il assouplisse la rigueur. C'est en quelque sorte un grand marchandage politique.
Donc selon vous, Alain, Cameron va aller jusqu'au clash?
En tout cas, Cameron l'affirme lui-même. Hein. Il dit qu'il préfère être mis en minorité par un vote du Conseil. C'est du jamais vu en Europe, où on préfère toujours le compromis entre dirigeants. On n'aime pas être mis en minorité. Mais là, Cameron pense à son opinion publique. Talonné par les eurosceptiques de UKIP, il veut montrer qu'il sait être inflexible à Bruxelles. Cameron est persuadé que ça lui rapportera des points chez lui. Une stratégie, je dois dire, qui étonne, même dans son pays.
Alain Franco en direct de Bruxelles, merci.
Alors pourquoi ce cavalier seul de la part de David Cameron de la Grande-Bretagne? On va en parler avec un Britannique, mais qui est né en Écosse quand même, et ancien député européen libéral démocrate. Il s'appelle Graham Watson, c'est même Sir Graham Watson, il était anobli. Il est avec nous en direct de Bruxelles à 7h35.
Partir de l'actuel cessez-le-feu en Ukraine pour aboutir à la cessation durable des hostilités, c'est sur cet objectif que se sont quittés hier soir Vladimir Poutine et Didier Burkhalter. Leur rencontre aura duré une heure à Vienne sous l'égide de l'OSCE et tous deux ont estimé qu'il fallait renforcer le nombre de Russes parmi les observateurs présents sur le terrain. Elena Volochine.
Boudé début juin en Normandie par les leaders occidentaux, à Vienne, Vladimir Poutine s'offre une session de rattrapage. Sur le plan diplomatique, si ce n'est un allié, Didier Burkhalter est au moins un interlocuteur attentif pour le président russe. Hier, il a plaidé pour un renforcement de la présence des Russes au sein de la mission de l'OSCE en Ukraine. De son côté, Vladimir Poutine s'est déclaré favorable à cette mission et à la prolongation d'une trêve. Mais si Didier Burkhalter, Petro Poroshenko, le président ukrainien et Vladimir Poutine parlent enfin d'une seule voix pour demander l'arrêt des combats. Sur le terrain, les rebelles poursuivent l'offensive. C'est à se demander quelle est l'influence réelle du Kremlin sur leurs actions. Mais à cette question, à Moscou, personne n'a jamais répondu. Elena Volochine, RTS Info. Moscou.
Alors, ce cessez-le-feu en Ukraine pourra-t-il se transformer en une véritable fin des hostilités ? On entendra le président de l'OSCE, Didier Burkhalter, juste après ce journal.
Michel Sapin, le ministre français des Finances, est attendu aujourd'hui à Berne. Il sera reçu cet après-midi par Evelyne Wilmer-Schlumpf, une semaine après la dénonciation par Paris de la convention de double imposition sur les successions. Le dialogue se poursuit donc sur les différents dossiers en cours entre les deux pays. Sur le fond, Michel Sapin marche sur les traces de son prédécesseur, Pierre Moscovici, mais sur la forme, Alexandra Laoui, ce nouveau ministre se distingue.
Evelyne Wilmer-Schlumpf. Ce nom-là, Michel Sapin s'est entraîné à le prononcer depuis plus d'une semaine, selon nos sources à Bercy. On se souvient que Pierre Moscovici avait simplement appelé notre ministre des Finances Evelyne. Michel Sapin, lui, ne veut pas passer pour un bleu lors de sa première visite en Suisse. Il va même plus loin en convoquant les banquiers suisses en France, une opération coup de pression, mais en douceur, qui vise surtout à montrer aux Français que le gouvernement Hollande, si bas dans les sondages, n'est pas prêt de capituler. Mais sur le fond, Michel Sapin ne change rien à la stratégie de Pierre Moscovici. Il veut récupérer les fonds de ses ressortissants. L'échange automatique d'informations est encore loin, 2 ans à attendre. Michel Sapin préfère donc signer aujourd'hui un avenant à la Convention bilatérale des impôts sur les revenus et la fortune qui permet d'échanger des données sur demande, un souhait qui sera réalisé cet après-midi aux alentours de 16h. Reste que les discussions seront parsemées de rappels du système politique suisse puisque selon nos sources proches à Bercy et à Berne, le ministre français n'est pas encore au point.
Une vision maintenant, que dis-je, un regard, c'est celui de Peter Spuller, le patron de Stadler Rail, sur les relations de la Suisse avec l'Union européenne.
Un homme d'influence donc, qui appelle aujourd'hui l'aile économique de l'UDC à trouver des solutions après le vote du 9 février sur l'immigration de masse. Il craint pour l'avenir des bilatérales, il partage les craintes de l'économie, crainte que le retour au contingent ne crée une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et que les industries délocalisent. Il s'en explique à Jordan Davis.
J'ai toujours dit avant les votations importantes sur l'Europe que si l'employé ne vient pas à l'atelier, l'atelier viendra vers lui. Il se délocalisera. Mais il ne faut pas s'emballer. Attendons le résultat des négociations à Bruxelles. Et puis, il faut voir le projet de loi qui sera envoyé au Parlement. Donc, restons zen et on verra.
Vous avez dit qu'un nouveau vote sur les bilatérales est inévitable. Mais est-ce que vous pensez que les Suisses vont dire oui ?
Pour la Suisse, j'espère que oui, que le premier paquet des bilatérales ne sera pas menacé. Si nous étions exclus du marché commun européen, ce ne serait pas dans l'intérêt de l'industrie des exportations. Mais je crois qu'on doit aussi dire qu'il n'est pas possible que la population continue de croître au rythme d'1% par an. Donc c'est dans ce dilemme que nous sommes empêtrés.
Et vous en parlez avec vos collègues de parti, vos anciens camarades au Parlement ?
Oui, je suis un peu déçu d'ailleurs que l'aile économique ne vienne pas avec des solutions alors que les enjeux s'aggravent. Je suis maintenant ancien conseiller national et je pourrais prendre de la distance avec tout ça. Mais je suis très sollicité comme entrepreneur. Je suis donc un peu tiraillé entre ces deux camps.
Deux candidatures sont désormais connues pour succéder à Yvan Perrin au Conseil d'État neuchâtelois le 28 septembre prochain.
Alors après l'UDC Raymond Clotu, dimanche, le libéral radical Laurent Favre a fait part hier de son intérêt.
Et ces deux candidatures doivent encore être confirmées par l'Assemblée de leur parti ce soir pour l'UDC, dans une semaine pour le PLR. À ce stade, Laurent Favre a une réelle longueur d'avance sur Raymond Clotu. Reste encore une possible candidature des Verts libéraux qui pourrait venir, qui sait jouer les troubles faits, Célestine Perissinotto.
Le consensuel Laurent Favre ratissera large, surtout au centre et à gauche, des voix qui n'iront pas à Raymond Clotu, jugé trop à droite. Le duel semble inégal, mais c'est sans compter les Verts libéraux. S'ils décident de lancer leur président Raphaël Grandjean la semaine prochaine, cela va perturber la distribution des suffrages. Ceux de gauche seront dilués entre Favre et Grandjean, dont le profil est proche. On partirait presque automatiquement sur un deuxième tour, toujours avec Favre comme favori. Les chances des Verts libéraux sont minces, mais en tant que dernier né des partis neuchâtelois, cette élection complémentaire pourrait leur offrir une belle vitrine politique en vue des communales de 2016. Et étonnamment, au sein des partis bourgeois, on voit d'un bon œil cette troisième candidature, pour mettre du piquant, certes, mais surtout pour éviter un combat frontal UDC-PLR au moment où les deux partis cherchent à s'entendre pour les fédérales de l'année prochaine.
Et puis à Neuchâtel, toujours, les conseillers d'État doivent pouvoir être destitués. Une destitution possible à une majorité des trois quarts du Grand Conseil. Réforme acceptée hier sur laquelle le peuple devra encore se prononcer. L'arrivée en Suisse de la Google Glass, ces lunettes munies d'une petite caméra, inquiète les préposés romans à la protection des données. Si ce produit n'est pas encore officiellement commercialisé, ici on le trouve déjà en vente sur Internet. Et face aux éventuelles atteintes à la sphère privée, eh bien, ces préposés appellent à réglementer l'usage de cet appareil. Marc Menichini.
C'est le dernier produit du géant de l'Internet Google, une paire de lunettes haute technologie, un genre de smartphone, sauf que l'écran se trouve projeté sur les verres et les touches tactiles se situent dans les branches. Une petite caméra est fixée à droite de la monture, ainsi filmée partout et tout le temps devient théoriquement possible, peut-être même à l'insu des personnes ou des lieux devant l'objectif. C'est du moins la crainte des préposés romans à la protection des données, comme celui de Neuchâtel et du Jura, Christian Flukiger.
Ça va contribuer à aider les escrocs à encore mieux connaître leurs victimes sur les escroqueries faites par Internet. On arrivera à accentuer le cyberharcèlement. On arrivera aussi à développer les surveillances pour les acteurs économiques. Par exemple, les assurances, les banques, les vendeurs de tout produit arriveront à encore mieux surveiller les gens.
Google Suisse se refuse à tout commentaire car même si on le trouve en vente sur Internet, ce produit n'est pas officiellement commercialisé en Suisse. Toutefois, la compagnie américaine précise que l'appareil signale quand il prend des photos ou réalise une vidéo. Insuffisant pour les préposés, ils appellent aujourd'hui à un renforcement du code pénal pour punir un usage abusif de ce type d'appareil et ce au nom de la protection de la sphère privée.
Football, c'est donc au tour de l'Italie maintenant, un des grands du foot mondial d'être éliminé de la Coupe du Monde.
Oui, éliminé hier soir, battu 1-0 par l'Uruguay. L'entraîneur Cesare Prandelli a d'ailleurs déjà présenté sa démission. Et Patrick Chaboudet, vous avez lu, la presse italienne du jour.
Una brutta Italia, une vilaine Italie dit adieu au rêve mondial. Ce titre de la Repubblica résume la tonalité des commentaires dans la presse transalpine. Des regrets, bien sûr, de la colère contre l'arbitrage, mais surtout le constat que le jeu pratiqué par l'Italie était tout simplement décevant et qu'elle ne méritait pas une qualification pour la suite de la compétition. Et puis on sent une atmosphère de règlement de compte, comme une guerre des générations au sein de l'équipe, avec ces propos de Gianluigi Buffon, le gardien irréprochable hier. Seuls, dit-il, les sénateurs, entendez les vétérans comme Pirlo ou De Rossi, ont tiré le char de l'équipe, ont vraiment rempli leur mandat. Et puis les quotidiens italiens évoquent également le cas Suarez avec cette formule dans la Gazzetta dello Sport. Dracula a encore frappé. C'est en effet la troisième fois de sa carrière que le joueur uruguayen mord un adversaire. En l'occurrence hier, c'était l'épaule du défenseur Chiellini. Ce qui nous vaut cette formule de l'équipe, le quotidien sportif français, l'Uruguay a du mordant.
Joli titre, Patrick, merci. Ouais. Et puis en huitième de finale, donc l'Uruguay affrontera la Colombie et le Costa Rica, la Grèce.
Bon, ce sont des huitièmes de finale pour lesquels la Suisse joue sa place ce soir.
Oui, écoute, on voit 22h face au Honduras avec des joueurs qui ont décidé d'adopter un discours positif à l'image de Valon Berami.
On est tout positif, on doit rester comme ça, on doit affronter ce match seulement avec cette mentalité. On ne doit pas penser à ce qui est passé, on a fait des grosses erreurs et on a regardé cette erreur, mais maintenant on n'a pas de temps de penser à ça. Devant nous, on a un match très important, on doit seulement penser positif. Et le foot c'est comme ça, tu changes. Après l'Équateur, en 30 secondes, on a changé le match et on était tout content, tout le monde était content, même si on a fait des erreurs dans ce match-là. Et là, contre la France, on a payé les erreurs et ça va, le foot c'est comme ça va très vite.
Les propos recueillis par notre envoyé spécial à Manaus, Bernard Alemann. Donc, Suisse, Honduras, 22h, en intégralité sur la première et sur RTS2. Puis, à la même heure, la France affrontera l'Équateur. Enfin, à Wimbledon, Wawrinka, Federer, Bencic et Baczynski se sont tous qualifiés hier pour la suite de la compétition. Au prochain tour, Wawrinka affrontera le joueur de Taïwan, Yen Chun Lu. Federer fera face à un luxembourgeois, Gilles Muller. Et Baczynski défiera la russe, Maria Sharapova, tout de même.
Tout de même. Didier Duployer, c'était le journal. On entendra Didier Burkhalter, président en exercice de l'OSCE, dans quelques instants. Il a rencontré Vladimir Poutine hier soir, c'était la troisième fois. Aujourd'hui, le temps sera bien ensoleillé malgré quelques passages nuageux. Température entre 10 et 15 ce matin, de 23 à 26 cet après-midi. Une bise faible à modérée sur le plateau, pardon. Demain, temps radieux, toujours des températures assez chaudes, 23 à 26 au maximum.